Donc, merci d'écouter ce podcast financier qui va faire une revue de l'année financière 2023. Je voulais évidemment attendre que cette année-là soit terminée pour vous donner les bons chiffres. Donc, maintenant que tout est canné, on peut faire le tour de cette année financière-là. Vous savez comment c'est en finance, c'est toujours facile d'expliquer le passé, toujours difficile de prédire l'avenir. Donc, on va commencer par le passé, c'est ce qui est le plus important, les grandes histoires financières de 2023. Sans plus tarder, je vais commencer à l'instant avec un graphique qui est de la grosse histoire dans ma tête pour 2023. Non, je ne vous parlerai pas de bourse pour commencer, je ne vous parlerai même pas d'obligations, je vais vous parler de marché monétaire. Puis vous allez comprendre pourquoi c'est la grosse histoire de 2023. Le graphique ici a l'air assez lourd, mais je vous le résume là, pour ceux-là qui sont juste à l'audio. C'est les entrées de fonds. En fait, c'est le capital qui est investi dans les marchés monétaires aux États-Unis dans diverses firmes, là, Fidelity, JP Morgan, Vanguard. Le marché monétaire, c'est un actif qui est très, très, très défensif. C'est du cash à toute fin pratique. Donc, les money market funds, marché monétaire, on pourrait penser que c'est presque comme des CPG de très court terme, là, de 30 jours, ou même les comptes à haut rendement qu'on connaît bien au Canada. Mais c'est les données américaines, évidemment. Ce qu'on voit, c'est l'explosion, premièrement, à partir de 2020. Ça, c'est assez spectaculaire, là. Si je fais un zoom, là, vous allez voir vraiment, il y a une explosion du marché monétaire en 2020. Et éventuellement, une autre explosion à partir de 2023. Vraiment, là, 2023, on voit vraiment le marché monétaire exploser une fois de plus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? C'est simplement, mais dites-vous une chose, au début de l'année, on vous donne la possibilité d'avoir des investissements à toute fin pratique, sécuritaires, presque garantis. C'est vraiment extrêmement sécuritaire. Impossible de faire un rendement négatif. Puis on vous parle de taux de 4, 4,5, 5 %. Donc, évidemment, plusieurs personnes expérimentent dans le passé des rendements de fonds équilibrés qui sont dans ces ordres-là. Fait qu'on se dit, pourquoi je prendrais des risques si je peux avoir du 4 ou du 5 % garanti, évidemment. Là même, on a des marchés monétaires autour de 5,5 aux États-Unis. Un compte à haut rendement au Canada, il y en a présentement qui affiche du 5,05 %. Fait que ça a été le gros trend pendant l'année. Évidemment, plusieurs ont peut-être même eu des téléphones du réseau bancaire canadien. Vous devriez acheter des CPG, regarder les taux d'intérêt garantis qu'on peut vous donner, et ainsi de suite. Donc, il y a eu un gros attrait pour les investissements garantis. C'est ça qui fait qu'il y a eu autant de dépôts de ce côté-là. Et quand on dit autant de dépôts, là, c'est qu'on a battu des records. Pour sortir la petite quote que j'avais ici, quand je dis qu'on bat des records de ce côté-là, c'est assez spectaculaire. On se rend compte que, ça, j'ai pogné ça dans un article en 2023, le marché monétaire présentement aux États-Unis est rendu de l'ordre de 6,35 trillions, si on veut, donc 6350 milliards. Peut-être une mesure avec laquelle vous êtes le plus familier. L'été aux États-Unis, on commence à s'en habituer. C'est 6,35 trillions, ça c'est en anglais. 6,35 billions, ça c'est en français. 6350 milliards en français, peut-être un peu plus facile parce que ça amène une confusion avec l'anglais français. Hein? Le billion en français équivaut au trillion en anglais. Donc, gardons ça simple, 6350 milliards, dont 1170 qui est entré carrément dans l'année 2023, ce qui est assez spectaculaire. J'ai même vu des chiffres qui montaient jusqu'à 1400 milliards au mois d'octobre. Donc, on peut penser qu'il y a eu un petit repli en fin d'année, ce qui ne serait pas surprenant, puis vous allez comprendre un peu pourquoi tout à l'heure. Donc, ça, c'est la grosse histoire. Donc, c'est sûr que quand tu es dans un contexte que plusieurs gens prédisent des crashs boursiers, puis en réalité, ce que tu te rends compte, c'est que l'argent rentre d'abord et avant tout dans le marché monétaire, dans un investissement extrêmement défensif. Tu te dis, c'est un gamble assez risqué de faire ce type de prédiction-là en 2022 parce que, bien évidemment, on ne savait pas que c'est ça qui allait arriver, mais ce que tu te rends compte, c'est que quand les gens sont très, très, très défensifs, c'est rare que là, on va voir une bulle se créer puis de quoi exploser à cause de ça parce que on voit plus les bulles exploser quand justement cette bulle-là a été créée par un excès d'enthousiasme. Donc, des gens investissent en bourse puis ils virent un peu avec leurs investissements. Ils sont sûrs qu'ils vont devenir milliardaires en dedans de deux jours. Vous comprenez un peu l'idée. Là. Il y a de l'euphorie. Mais c'est pas ça qu'on avait en 2023. C'était pas de l'euphorie qu'on avait en 2023. Au contraire, les investissements les plus populaires étaient des investissements défensifs. Ou à toute fin pratique, quand même très défensifs. Fait que ça, c'est la grosse histoire de mon côté. Autant d'argent qui rentre dans des produits aussi défensifs. C'est sûr, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des taux intéressants comme ça dans le marché monétaire. Je vais vous montrer justement ces taux-là, à quoi ça ressemblait. Vous allez peut-être comprendre pourquoi ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Si j'ai le graphique ici à l'écran, on a toute fin pratique 2014-2015, les taux étaient à 0% dans le marché monétaire. C'était le cas depuis 2008 en fait. Commence à monter légèrement en 2016, légèrement en 2017. 2018, ça monte un peu plus. 2019, ça continue de monter. Après ça, arrive évidemment la COVID 2020. Et on baisse les taux d'intérêt au maximum pour stimuler l'économie. On est capable de maintenir ça jusqu'au début 2022, avant le début des hausses de taux importantes qui sont venues tout simplement pour freiner l'inflation. Donc, le growth talk of the town en 2022, c'était l'inflation. Donc, il fallait fighter cette inflation-là, d'où les hausses de taux qu'on a vécues. Même, il y a eu d'autres hausses de taux au début 2023 pour amener les taux de marché monétaire en haut de 5%. C'est vraiment ça qui arrive dans ces années-là. Fait que il y a eu un attrait pour les produits extrêmement défensifs à cause de ça. Si on va voir d'autres graphiques, quand je disais le marché monétaire, des fois, c'est constitué de quoi exactement? C'est constitué principalement de trucs du gouvernement, donc des obligations de très court terme du gouvernement. Le graphique que j'ai à l'écran, je pense qu'il va vous le montrer. Ici. C'est le défaut un peu d'être seul. Là. Aujourd'hui, ça va quand même assez vite. Mais le graphique que vous allez voir montre justement le marché monétaire va être constitué de quoi? C'est principalement là, des coupons du gouvernement, des obligations du gouvernement. Il y a d'autres choses évidemment là-dedans, mais principalement, c'est des trucs du gouvernement. Et vous comprenez que les gouvernements s'endettent à vitesse grand V. Depuis 2020, on voit là, la coupure en 2020 qui est assez spectaculaire. C'est ce qui permet aussi à ces gouvernements-là de s'endetter aussi vite, c'est qu'il y a un appétit pour les produits défensifs. Donc, ils ont été capables d'absorber cette dette-là assez facilement. Donc, ça, c'est l'histoire pour le marché monétaire. Où est-ce qu'on va? On va bifurquer maintenant. Ça va être un peu plus au niveau des obligations. Ça aussi, c'est le gros talk dans ma tête pour 2022, puis qui s'est continué en 2023. On va commencer avec ce qui m'intéresse le plus, les obligations américaines. Puis je vous exprime un peu plus tantôt pourquoi les canadiennes m'intéressent un peu moins. Au niveau des obligations américaines, voici ce qu'on est présentement. Les obligations de 10 ans, qui est pas mal un gros benchmark. Fait qu'on a vraiment les 52 dernières semaines, donc on a une belle capture de ce qui s'est passé au cours de l'année. On commence l'année 2023 avec des taux aux alentours de 3,25%. Et vendu pour les taux 10 ans. Donc, même s'il y avait une augmentation des taux d'intérêt de la Banque centrale qui était très, très, très rapide, pendant plusieurs mois, ce qui s'est passé, c'est que les taux d'intérêt de la Banque centrale, les taux d'intérêt de très, très, très court terme, étaient beaucoup plus élevés que les taux 10 ans. C'est ce qu'on appelle une courbe inversée en termes obligataires. C'est généralement un indicateur de récession qui s'en vient. Ça ne veut pas dire que quand tu vois cet indicateur-là, que tes taux 10 ans sont plus faibles que tes taux 2 ans, par exemple, ça ne veut pas dire que tu vas avoir une récession, mais généralement, quand il y a une récession, tu te rends compte que ça, on l'avait vu avant. Fait que c'est un peu ce qui amène la phrase de certaines personnes de dire les experts ont réussi à prédire 10 des 3 dernières récessions. Là, vous comprenez un peu l'idée. Donc, c'est pas une garantie qu'il va y avoir une récession, mais quand il y a une récession, souvent on va voir ces indicateurs-là. Donc, on était dans cette position-là vraiment au début de l'année. Fait que le pessimisme ambiant était normal quand on y pense, là, parce que justement, l'histoire des obligations nous disait, c'est justement que on n'y croyait pas vraiment à la thèse que l'inflation était là pour durer longtemps, que les taux d'intérêt allaient rester hauts longtemps. Ça a changé pendant l'année. Donc, tout au long de l'année, cette thèse-là, que l'inflation était plus dure à fighter qu'on pensait, a continué de prendre beaucoup de vigueur et est devenue de plus en plus probable. Et à ce moment-là, les taux 10 ans ont commencé à bouger vers le haut. On est monté aux États-Unis jusqu'à 4,99%, ce qui est quand même assez majeur. C'est un pic qu'on obtient à peu près dans l'été de mémoire. Et ce qu'on voyait, c'est que l'inflation commençait à décélérer, mais on avait l'impression que ce serait extrêmement difficile de se rendre dans fourchette idéalisée par la Banque centrale. On le sait, la Banque centrale vise de 1 à 3 d'inflation généralement pour être satisfaite, pour avoir les trucs sous contrôle, puis justement ne pas trop changer sa politique monétaire. On avait l'impression que ce serait beaucoup plus difficile à obtenir ce fameux 3 %-là, puis même 2 % idéalement, faut le dire. Sauf qu'à partir de l'été, on a commencé à avoir une décélération de l'inflation qui était un peu plus importante. Et les gens ont commencé à prendre confiance que ça allait être moins pire qu'on pensait, qu'on allait être capable de contrôler ça au niveau des États-Unis. D'où la baisse des taux d'intérêt qu'on commence à observer à l'automne, tout simplement. Et dans les derniers mois, en fait, novembre et décembre, ce qu'on observe, c'est que les derniers chiffres d'inflation qui sont sortis ont carrément donné quelque chose autour de 3 %. Faut dire aussi qu'en septembre et octobre, il y avait eu une reprise un peu, je pense, ou septembre, en tout cas, il y avait une petite reprise de l'inflation. Donc, on a recommencé à douter à ce moment-là. Et finalement, le mois d'après, quand les chiffres d'octobre sont sortis, ben, on voyait qu'il y avait une stabilisation de l'inflation, que ça recommençait à baisser. Donc, c'est pour ça que ça s'est calmé au niveau des obligations de plus long terme, les obligations de 10 ans aux États-Unis. Les gens qui ont des portefeuilles obligataires, ce qu'ils doivent comprendre, c'est quand tu possèdes déjà des obligations, le taux d'intérêt, quand il monte, l'impact que ça a, c'est de faire baisser les prix. En fait, c'est plus le contraire. Les obligations se transigent, l'offre et la demande, le prix bouge, donc le prix, quand il diminue, ce que ça fait, c'est que le taux d'intérêt calculé intrinsèquement dans l'obligation lui augmente. Et éventuellement, quand les prix augmentent, ben, les taux d'intérêt baissent. C'est une relation qui est inverse, qui est contre-intuitive un peu. Donc, on se rend compte que justement, il y a une confiance qui est revenue un peu dans l'économie, que justement l'inflation, ce serait un peu moins pire qu'on pensait, puis qu'éventuellement, les hausses de taux seraient pas mal finies. On pense, tu sais, jusqu'au mois d'août, septembre, il y avait toujours un risque de voir d'autres hausses de taux. À toute fin pratique, présentement, c'est carrément même au mois de décembre, puis même début janvier 2024, c'est complètement sorti du langage des dirigeants de la Banque centrale. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas revenir. Ça ne veut pas dire que l'inflation ne peut pas avoir des soubresauts. Restons vigilants. C'est juste, tout ce que ça veut dire, c'est que la probabilité d'un scénario de spirale inflationniste à n'en plus finir, a baissé. Baissé dramatiquement dans les 3 ou 4 derniers mois. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle parce que ça veut dire que la lutte à l'inflation va avoir été beaucoup plus facile qu'on pensait. Il y en a même qui s'excitent beaucoup. Puis c'est là qu'on s'en va tranquillement. Les gens viennent tellement qu'à s'exciter qu'ils s'imaginent que le soft landing est pratiquement garanti. Puis que finalement, on va être capable de baisser les taux d'intérêt sans aucune conséquence économique dans les prochains mois. Là, on commence à tomber un peu dans le wishful thinking, vous comprenez. Ça pourrait arriver. Là. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui est impossible, mais ce n'est pas parce qu'on a une stabilisation au niveau de l'inflation qu'il faut commencer à sabrer le champagne et tout ça. D'ailleurs, on sent que la Banque centrale, début 2024, commence déjà à envoyer certains signaux, comme disait, calmez-vous un peu. Oui, la situation est sous contrôle. Oui, probablement que les taux d'intérêt qui augmentent, c'est terminé. Mais là, allez pas penser qu'on va baisser de 3 % demain matin. Wow, cheval. On est dans ce mode-là un peu. Fait que ça explique un peu ce qui s'est passé au niveau des États-Unis. Si on regarde au niveau du Canada, ce que vous avez à comprendre au niveau des taux d'intérêt canadiens, c'est la chose suivante, c'est que les mouvements sont un peu différents de ce côté-là. On va avoir... Moi, j'ai sorti les chiffres depuis 2008, là, fait qu'on voit vraiment que les taux d'intérêt étaient quand même en haut de 4 % pour les taux 10 ans en 2008. On n'a pas atteint ces taux-là dans l'année 2023. On est resté en bas, ben c'est pas vrai, on est allé à 4,28. C'est le plus haut qu'on est allé, mais on ne s'est pas rendu à 5 % comme aux États-Unis ou 4,99 en réalité. Donc, on est plus bas. Qu'aux États-Unis en termes de taux d'intérêt 10 ans. Il faut dire aussi que notre économie est un petit peu plus mal en point que celle des Américains. Les hausses de taux d'intérêt au niveau canadien ont eu un impact beaucoup plus grand qu'au niveau des États-Unis. Pourquoi c'est comme ça? Principalement à cause de la structure de taux d'intérêt qu'on a au niveau des hypothèques, à mon avis. Vous savez un peu, au niveau canadien, on avait quand même beaucoup d'hypothèques à taux variable au début de la crise inflationniste. Donc, les gens, les hausses de taux l'ont eu en pleine face dès le départ. Et le reste des hypothèques qui sont à taux fermés, c'est des taux fermés 5 ans. Donc, plus on avance dans le temps, 2021, 2022, début des hausses de taux, 2023, ainsi de suite. Ben là, 2022 est passé, 2023 est passé, ça veut dire qu'il y aurait comme, si on fait une approximation, il y aurait déjà 40 % des hypothèques qui auraient renouvelé sur un terme de 5 ans. Donc, il reste 2024, 2025, 2026 à avoir les renouvellements pour compléter le cycle, pour que 100 % des Canadiens, ou à peu près 100 % des Canadiens, aient vu leur taux augmenter au niveau de l'hypothèque. Concept qui est différent aux États-Unis, c'est ce qu'on va voir, c'est que le terme d'intérêt le plus populaire aux États-Unis, c'est l'hypothèque 30 ans. Donc, avant que les hausses de taux aient un impact sur le solde hypothécaire, ou en fait plus sur le paiement hypothécaire des Américains, ça prend beaucoup plus de temps par rapport au Canada. Donc, c'est sûr que quand tu commences à hausser les taux au niveau de la Banque centrale, ton impact est beaucoup plus grand au niveau canadien qu'au niveau américain dans le portefeuille des gens. Mettait à ça le fait que le taux d'endettement des Canadiens était plus élevé que celui des Américains. Donc, quand on compare les dettes par rapport au PIB, si on veut, ou aux revenus disponibles plutôt des habitants, nos statistiques étaient moins reluisantes que celles des États-Unis. Donc, on peut dire que les taux d'intérêt qui ont monté au niveau canadien ont eu un impact dans le portefeuille des gens beaucoup plus grand qu'au niveau américain. Donc, c'est pour ça probablement que la thèse que les taux d'intérêt resteraient très élevés très longtemps au Canada a perdu rapidement du steam parce que, justement, l'impact économique est majeur. D'ailleurs, quand on regarde dans les chiffres, le Canada est en train de flirter avec la récession carrément, alors que les chiffres américains au niveau de l'augmentation du PIB sont quand même assez intéressants. Donc, l'économie américaine va bien, est en santé. Il n'y a pas de signe de récession encore, alors que le Québec et le Canada ont des signes de récession, puis même techniquement, le Québec serait dedans présentement. En fait, probablement que c'est quelque chose qu'on risque de confirmer dans les prochaines semaines, prochains mois. On va être dans les grands débats sémantiques, tout ça. C'est une vraie récession, et c'est bon. Peu importe. La chose qui est quand je parle avec beaucoup de clients de mon côté, qu'on parle des manufacturiers, par exemple, dans le domaine de la bourse, les gens dans le transport, l'eau, ainsi de suite, le ralentissement économique, on le sent fortement. Gardez une chose en tête, par contre, on ne peut pas avoir une grosse différence avec les Américains. Pourquoi c'est comme ça? Ben, pensez-y deux secondes. Là. Si on est dans une situation, par exemple, qu'on est obligé de baisser nos taux d'intérêt rapidement parce qu'on est en récession, alors que l'économie américaine va vraiment bien de son côté, ce qui va arriver normalement, c'est qu'on va créer un impact sur le taux de change. Donc, on risque de voir le dollar canadien dans un scénario comme ça baisser. Et assez rapidement, si le dollar canadien baisse, qu'est-ce qui va arriver? Puis ça va venir stimuler un peu les manufactures qu'on retrouve, par exemple, au Québec ou en Ontario. Donc, il y a cet effet stabilisateur-là entre les deux pays qui est toujours assez important, qui fait en sorte que c'est difficile pour l'économie canadienne de vraiment diverger énormément de l'économie américaine. C'est une des raisons pourquoi j'ai toujours une préférence à regarder ce qui se passe aux États-Unis par rapport au Canada de ce côté-là au niveau des obligations. Donc ça vous donne un peu le portrait des titres financiers plus plates un peu, mais je trouve qu'ils ont bougé d'une manière assez importante, qui sont plus liés un peu à l'économie, quoi que ce soit les marchés monétaires ou les obligations. Maintenant, on va passer au bout qui fait en sorte que les gens sont toujours bien stimulés de parler, c'est le bout de la bourse, évidemment. Première des choses, on va vous présenter les résultats pour commencer. Non, c'est vrai, j'avais un dernier graphique que j'avais sorti, je voulais vraiment le passer. Ben, ça fait la transition un peu entre les taux d'intérêt et la bourse, justement. C'est la raison pourquoi je l'avais placé là dans la présentation. Ce graphique-là est quand même assez intéressant. C'est une petite recherche que j'ai vue dans un article. C'est rien de majeur, là, puis c'est pas une garantie de l'avenir, mais quand on regarde les rendements qui suivent ou pendant certaines périodes de taux d'intérêt, de mouvement de taux d'intérêt, voici un peu qu'est-ce qui en ressort. On peut regarder 6 mois avant la dernière hausse. Donc, c'est sûr que tu ne sais pas c'est quand, à quelle date que c'est ça, 6 mois avant la dernière hausse, jusqu'à temps que la dernière hausse ait eu lieu. Donc, si on suppose que la dernière hausse présentement aurait eu lieu, ce qui est fort possible quand même, il faut l'avouer, ben ça serait derrière nous. Donc, les rendements de 2022 seraient probablement explicatifs de cette période-là, de 6 mois avant la dernière hausse. Ce qu'on se rend compte, c'est que les titres boursiers ont de la difficulté à donner du 6-7 % à peu près. Donc, c'est un rendement qui est intéressant, mais qui est quand même short. Les obligations ont beaucoup de difficultés à donner un bon rendement. ça, c'est carrément ce qu'on a vécu, évidemment, en 2022. Et le cache donne de quoi d'assez stable là, dans le temps, dans les trois graphiques. Vous allez voir, le cache est sensiblement pareil. Le bout qui est jouissif un peu en finance, c'est la période de pause. Donc, c'est la période qui se situe entre les hausses de taux d'intérêt et celle où est-ce que les taux d'intérêt commencent à baisser. Donc, la période de pause, généralement, donne des rendements boursiers quand même assez intéressants. On parle des rendements au-dessus de 20% dans cette période-là. Fait que, tu sais, c'est sûr, quand tu regardes ce qui s'est passé en novembre, décembre sur les marchés financiers, tu as tendance à dire « Ouais, hein, ça ressemble à une période de pause de taux d'intérêt. » Et les premières baisses de taux d'intérêt, qu'est-ce qui arrive? Ben, les rendements boursiers baissent, sont quand même intéressants, mais vont baisser, plus de l'ordre de 15%. Et les obligations vont donner un rendement intéressant également, puis le cash, comme vous pouvez voir. Donc ça, je trouvais que c'était un graphique qui était le fun pour encourager les gens, parce que vous allez voir un peu dans ce que je vais dire pour le reste, on a eu une pause de pessimisme assez forte dans l'année financière en 2023. Tellement forte que même moi, j'ai sorti des statistiques, je vais vous montrer un peu le thinking derrière ça, par rapport à ça. On commence par l'année, grosso modo, comment qu'elle s'est faite, donc indifféremment de comment elle s'est passée l'année dans le temps, mais juste comment qu'elle s'est complétée, les 12 mois complets de rendement, avec différents indices. Fait que ça va vous donner une idée de ce qui s'est passé un peu partout sur la planète, grossir évidemment, qu'on puisse y voir. Pour sortir les indices, là, j'ai pas fait des grosses affaires là, très, 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 très précises. J'ai carrément pris des FNB qui reproduisent des indices. J'ai pris leur rendement de ces FNB-là. Je comprends qu'il y a des frais et tout ça, mais ça donne un ballpark pour avoir une idée des taux d'intérêt, des taux de rendement qui ont été faits plus tôt. Donc, comme vous pouvez voir, l'année 2023, le Nasdaq qui fait tout près de 55%, tu fais « Aïe, aïe, c'est malade, tu sais! » Ouais, mais attendez, il y a d'autres choses là-dedans. Dow Jones, 16%, S&P 500, 26%, S&P TSX, 11,8%, EAFE, ça c'est un indice qu'on utilise pour le volet international. Donc ça mixe vraiment là, beaucoup de pays dans le monde. Là. C'est un indice qui est intéressant pour ça, parce que c'est rare qu'on va avoir un portefeuille juste investi aux États-Unis ou juste investi au Canada. Donc moi, c'est un indice que j'aime quand même beaucoup. Il n'est pas populaire, on ne le voit pas à la télé, mais c'est un indice que j'aime suivre. 16%, l'Europe 16% et les obligations ont donné tout près de 7% en 2023. Pourquoi vous voyez les chiffres de 2022 et surtout le combiné annualisé? Ce que vous avez à comprendre en bourse de l'année 2023, c'est la chose suivante. Peu importe comment vous étiez investi en 2023, l'année a principalement servi à corriger le rendement de 2022. Grosso modo. Dans le sens que c'est pour ça que le combiné annualisé est vraiment intéressant. C'est spectaculaire, le Nasdaq qui fait 55% en 2023. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Nasdaq en 2022, il avait perdu 32,5%. La combinaison des deux, puis si on transforme ça dans un rendement annualisé, on parle de 2%. C'est comme l'équivalent d'avoir fait 2% par année pendant 2 ans. Là, tu fais « Ah, OK, ouais ». Tu sais, le Dow Jones n'a pas été spectaculaire. C'est 16% en 2023, c'est la même plate un peu. Les titres dans le Dow Jones qui sont un peu plus industriels, si on veut, ils ont été beaucoup moins spectaculaires que ceux du Nasdaq, mais en 2022, ils avaient perdu aussi beaucoup moins de leur côté. Ils avaient juste perdu 7% au lieu du 32% du Nasdaq. Donc, la combinaison des deux donne même une meilleure performance au niveau du Dow Jones à 3,87% qu'au niveau du Nasdaq, 2,18%. Et évidemment, ça s'est, ce 3,87%-là sur les 2 années se fait sans mot de cœur vraiment, là, parce que tu n'avais pas perdu tant d'argent que ça en 2022. S&P 500, qui est vraiment une combinaison des deux, si on veut. C'est les 500 plus grosses compagnies, mais que le Nasdaq qui est très, très, très techno, par exemple. Le Dow Jones qui est un peu plus industriel. Ben, le S&P 500 va être plus entre les deux au niveau de cette distinction-là. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que oui, il fait 26% en 2023, mais on avait aussi perdu 18% en 2022. Donc, la combinaison des deux, encore là, a un rendement assez tranquille. 1,6% annualisé sur les 2 années. L'indice canadien, 2,35%, moins 6, 11. Combinaison des deux, 2,35. L'indice international, je vous parlais tantôt, oui, il a fait 16, mais il avait fait moins 8 l'année d'avant. Donc, 3,03. Je pense que l'Europe, j'ai fait une gaffe. Ma rencontre là, c'est le fun pendant le podcast. J'ai oublié de remplir une ligne. Bon, pas grave, on oublie ça. Obligation, moins 11%. et 7% en 2023, rendement positif, fait qu'on partait quand même d'un rendement négatif. La combinaison des deux donne encore du négatif au niveau des obligations. Ça va être plus rose dans le futur, évidemment, pour les obligations, vous comprenez ça. Pourquoi je parlais, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'année? C'est qu'à un moment donné, justement, on a eu une phase où est-ce que les gens ont commencé à être vraiment pessimistes. On recevait beaucoup d'appels de notre côté, puis pas 100% de la clientèle qui appelait, là, vous comprenez, mais il y avait vraiment des appels de gens qui commençaient à être vraiment nerveux parce que les oiseaux de malheur s'en donnaient à cœur joie. On a chanté la chanson de la récession toute l'année, pendant l'année 2023. Même, on a commencé à la chanter en 2022 dans bien des cas. Fait que les gens se sont mis vraiment à avoir peur au niveau financier de plusieurs trucs. Les marchés allaient plus ou moins bien jusqu'à la fin octobre quand même. C'était quand même assez tranquille. Donc, j'ai sorti un... Ça, c'est quand même drôle parce qu'on a une discussion d'équipe chez votre conseiller.net de notre gang. Puis, quand j'ai voulu préparer cette présentation-là, ben, j'ai remonté dans cette discussion-là tous les tableaux qu'on a postés dans l'année, dans notre discussion, toutes les choses qu'on a vécues avec les clients, des cas particuliers, mais des trucs comme ça. Puis je trouvais ça quand même le fun. Puis à un moment donné, je suis tombé sur une discussion qu'on avait autour de la fin octobre, justement, où est-ce qu'on sentait vraiment une nervosité chez plusieurs clients. On commençait vraiment à recevoir des appels de gens qui voulaient tout vendre, leur titre financier, leur titre boursier, pour aller en cash dans le marché monétaire. Comme vous pouvez voir, il y en a beaucoup qui l'ont fait, ce move-là, parce que c'est pas pour rien qu'il y a eu autant d'argent qui est rentré dans les fonds de marché monétaire dans l'année 2023. C'est que le move que je vous parle là, où est-ce qu'on sentait qu'on avait des clients qui nous le demandaient, bien, il y en a des gens qui le faisaient. Nous, on le proposait pas, on suggérait pas aux gens de façon, on les convainquait de pas faire ça. Mais le moment où est-ce que c'était assez fort, puis c'est ce que j'ai vu dans nos discussions de groupe, c'était vers la fin octobre. On avait vraiment des discussions à l'interne de notre côté, des conseillers, pour dire, crème, il y a une pression présentement. Les gens vivent une pression, ils trouvent ça tough de rester investi en bourse. Il se passe de quoi présentement? Ce qui est drôle, c'est que j'avais sorti le 26 octobre les mêmes rendements que je vous ai présentés, mais je les avais sortis à ce moment-là pour les mêmes indices. Puis vous allez voir un peu la variation qui s'est passé depuis le 26 octobre. Donc, à un moment où est-ce que les gens étaient tellement négatifs qu'on sentait une pression de notre côté, où est-ce qu'il y a certaines personnes qui nous appelaient pour dire on voudrait peut-être tout vendre ou des choses comme ça, c'est là qu'il s'est passé un peu un tournant, puis qu'après ça, la bourse s'est mise à vraiment bien aller. Donc, si je vous présente les chiffres, vous allez voir, c'est quand même assez important. Ça arrive souvent de notre côté. Mais vous voyez, à ce moment-là, le Nasdaq, oui, il avait fait 32, mais il a fini l'année à 55% de rendement. Donc, à partir du 26 octobre, il a rajouté un 22% de rendement de son côté. Le Dow Jones a rajouté un 14% de rendement de son côté. Le S&P 500 a rajouté 15% de rendement. Le S&P TSX, le TSX 60 a rajouté 11,7%. L'indice international, comme je vous dis, il y a une erreur là, dans ces fichiers-là, là, mais 11,14% au niveau de l'indice international. Puis les obligations ont rajouté 8,5%. Même les obligations ont rajouté carrément 8,5% de rendement. Donc ça a été... Comme je vous dis, il y a des gens qui nous appelaient à ce moment-là. Le 26 octobre, là, il y avait suffisamment de gens qui nous appelaient pour sécuriser leurs actifs. Alors qu'on était dans une position où est-ce qu'on sentait pas vraiment l'intérêt d'y aller. Oui, les marchés étaient pessimistes, mais il y avait suffisamment de gens qui nous appelaient pour sécuriser leurs actifs, pour créer une discussion à l'interne chez votre conseiller.net, puis m'inciter à sortir carrément les rendements à ce moment-là, ce qui m'a permis de les avoir en banque pour les présenter aujourd'hui, puis regarder le rendement qui s'est passé après ça. Donc, à un moment où est-ce qu'on a senti notre clientèle pessimiste, ben le rendement tout de suite après qui a été généré était assez bon, disons-le comme ça. C'est souvent ça qui se passe, c'est quand les gens viennent avoir une tentation d'aller tous dans la même direction, ben après ça, on dirait qu'il se passe quelque chose dans la direction opposée qu'ils voulaient aller par contre. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le fait que c'est important de rester investi, c'est important de garder son plan, c'est important de garder sa stratégie. Il faut persévérer même quand que les incitatifs sont pour nous faire changer de direction. Comme vous le voyez là, on avait un incitatif pour changer de direction qui commençait à être assez fort dans la population générale. Puis si on l'avait fait, si on l'avait écouté, ben on aurait carrément pris la mauvaise direction, là, assez évidemment. Ça, c'est vrai des deux sens. À un moment donné, il y a de l'excès d'enthousiasme. Tout le monde vire fou un peu. Il dit, hey, ça, c'est les meilleurs investissements du monde. Puis, bien, souvent, c'est là que ça plante. Parce que justement, il y a un excès d'enthousiasme. La bourse est faite pour jouer avec nos émotions beaucoup. C'est une des raisons pourquoi on incite les gens à avoir un peu plus de recul par rapport à tout ça, pour regarder ça trop souvent, ou si on le regarde souvent, de ne pas essayer de se laisser avoir par ses émotions le moins possible, en tout cas. Si on sort maintenant les rendements boursiers, plus par secteur, qu'est-ce qui a vraiment bien été, ainsi de suite. J'aime toujours un peu ces graphiques-là qui sont un peu Capharnaüm, là, mais c'est un roadmap, si on veut. On voit ça, c'est vraiment aux États-Unis, donc on voit les compagnies qui ont fait du gros rendement l'année passée. C'est vert. Apple 41, Microsoft 54, Google, Amazon. Plus le carré est gros, plus la compagnie est grosse dans l'indice, là, vous comprenez. Pas beaucoup de rouge, il y en a un peu. Là, on voit du Coca-Cola, moins 5, Procter & Gamble. Il y a certains secteurs qui ont été plus tough à donner du rendement. En énergie, par exemple, ça a été un petit peu plus tranquille. On a eu une bonne année en 2022. Mais tu sais, vous voyez que c'est quand même du vert pas mal à grandeur, niveau boursier aux États-Unis. Et les grosses compagnies, ce qu'on a appelé le Magnificent Seven, là, prennent beaucoup de place dans l'indice et vont avoir des rendements très, très bons en 2023. Qu'on pense le mauvais rendement de 2022 dans certains cas, là, vous comprenez. Puis, on est tombé sur un article qui avait ce graphique-là à l'intérieur l'année passée. Puis, j'ai trouvé vraiment le fun pour montrer le rendement de 2023. S&P 500, au moment d'écrire l'article, on était à 19% de rendement. Par contre, si on prenait le rendement des 7 gros joueurs, là, Meta, Amazon, Apple, Microsoft, Google, Tesla et Nvidia qui est la grosse histoire de 2023, c'est le groupe de titres qui a reçu le surnom de Magnificent Seven. Quand tu as un surnom de même populaire dans la population générale, ça veut dire que tout le monde achète les mêmes titres, tout le monde tripe ses mêmes affaires. Mais tu vois que leur rendement à eux, c'est 71%. Et quand tu l'exclus de l'indice, ben, tu te rends compte que le rendement de 493 autres compagnies était assez tranquille jusqu'à la fin octobre 2023. On parle de 6% de rendement si on excluait le Magnificent Seven. Ce graphique-là, je le trouvais intéressant parce que ce que tu te rends compte, c'est qu'il y avait une effervescence, mais cette effervescence-là, tu es concentré dans un secteur technologique beaucoup. Un type de compagnie, c'est la méga cap américaine qui joue avec les technologies, grosso modo. Là. Donc, Meta, Amazon, Apple, Microsoft, Google, Tesla et Nvidia. C'est une des grosses histoires de 2023, évidemment, ça. Là, si je m'en vais un peu plus dans le monde, donc ça, c'est bon, je pense que je ne passerai pas, lui, ça ne vaut pas la peine. Les price-earning ratio, ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. C'est un indice pour voir jusqu'à quel point les titres des compagnies sont chers. Okay? Un price-earning ratio, ce qu'on compare, c'est le prix de l'action par rapport au profit réalisé par l'action. Donc, plus le multiple est élevé, plus l'action est chère. Des fois, c'est justifié de payer cher. Par exemple, une compagnie de croissance, où est-ce que les profits de cette année sont moins pertinents que les profits dans 10 ans? Ben, on s'assure qu'on paie un gros multiple à ce moment-là, c'est moins grave. Parce qu'on se dit que les profits vont être multipliés par 10, par 15, vous voyez un peu l'idée. Tandis qu'une compagnie un peu plus stable, une banque par exemple, qui va avoir des profits très, très, très stables dans le temps, qui va avoir une légère croissance dans ces profits-là, ben, on va essayer de les acheter avec des multiples quand même plus bas. Le graphique va vous montrer, grosso modo, là, je vais l'afficher, là, puis je vais vous l'expliquer un peu comment ça fonctionne. C'est un roadmap comme tantôt, la grosseur des compagnies compte encore pour beaucoup. Et la charte des couleurs, c'est en fonction du ratio coût-bénéfice. Donc, ce que vous allez vous rendre compte, c'est que ce qui est plus vert va avoir des ratios coût-bénéfice de 5, de 10. Neutre, ça va être autour de 15. Et les ratios coût-bénéfice qui vont être rouges vont être en haut de 20. Donc, 20, 25, 30, ainsi de suite. Donc, très, très, très rouge, c'est les ratios coût-bénéfice sont quand même assez élevés. Ben, les grosses compagnies qui ont fait du gros rendement en 2023, ce que tu te rends compte, c'est qu'aussi leur ratio coût-bénéfice est assez cher de ce côté-là. Donc, tu sais, d'acheter ces compagnies-là aujourd'hui, il faut que tu sois conscient d'une chose, c'est que c'est cher à les acheter. Une histoire qui est peut-être le fun, c'est Meta, qui présentement, le ratio coût-bénéfice est autour de 30. La réalité, c'est qu'en 2022, à un moment donné dans l'année, je pense que j'avais vu le ratio coût-bénéfice de Meta qui était droppé en bas de 8, carrément, là. C'était assez spectaculaire comme drop de ce côté-là. Fait que ça vous donne une idée un peu. Fait qu'il y a, il reste des trucs pas trop chers aux États-Unis. Quand tu t'en vas au niveau des financières, au niveau des banques, en fait, les Bank of America, JP Morgan, tu vois qu'il reste des stocks pas trop chers. Au niveau de l'énergie aussi, il y a des stocks pas trop chers. Mais d'une manière générale, les indices américains commencent à être chers. On entend, vous comprenez que dans la dernière année, le rendement des bourses américaines a été spectaculaire, surtout au niveau du Nasdaq, mais les gens, des fois, ont un peu moins confiance à l'Europe, un peu moins confiance au Canada, ou ainsi de suite. Si on regarde le même type de graphique, mais pour le reste du monde, donc on enlève les États-Unis de l'équation, vous allez vous rendre compte que c'est un peu moins rouge comme carte. Il y a un peu plus de zones vertes à l'intérieur, plus de neutres également au niveau canadien. C'est sûr, les banques canadiennes, les ARY, c'est la RBC, TD. En Europe, on est capable. Il y en a des compagnies rouges, mais il y a aussi du vert en Europe. Évidemment, en Asie, il y a beaucoup de vert. En Amérique du Sud, il y a beaucoup de vert. Donc, on se rend compte que sur la carte mondiale, c'est un petit peu plus facile de trouver des opportunités d'achat à des ratios coûts-bénéfices plus faibles qu'aux États-Unis, où est-ce que la carte commence à être quand même assez rouge. Donc ça, c'est un petit quelque chose à garder en tête. Dire, oui, la bourse américaine a été une des meilleures bourses au monde dans les 15 dernières années, mais pour le futur, le passé n'est pas garant du futur. Il reste des aubaines dans la bourse américaine, sont un peu plus tough à trouver, mais il en reste définitivement. Donc, il y a encore un intérêt d'avoir beaucoup d'argent investi aux États-Unis. Mais il n'y a pas juste les États-Unis. Il faut penser au reste de la planète aussi. Peut-être un petit peu plus d'opportunités ailleurs de ce côté-là. Fait qu'il faut pas négliger les investissements à l'étranger. Fait que ça fait le tour un peu de ce côté-là des actions. Ce que je voulais montrer, les stats économiques assez rapides. Je m'attendrai pas trop longtemps. Ça, c'est les stats économiques actuelles, sorties celles du Canada et des États-Unis. Donc, le Canada, on voit le currency, c'est par rapport au dollar américain, là, 1,34 environ, l'équivalent d'un 75 sous présentement. GDP growth rate, il est négatif dans le dernier trimestre. Donc, c'est le trimestre qui finissait le 30 septembre. Donc, premier trimestre négatif. Quand on va publier les chiffres de Q4, là, du trimestre qui se termine au 31 décembre, est-ce qu'on va officialiser la récession au Canada? Il s'agirait juste d'avoir un négatif, puis ce serait le cas. Donc, quand je dis on flotte avec la récession, c'est peut-être qu'on est déjà dedans, dans le fond, là, vous comprenez, là, parce qu'au 30 septembre, on avait déjà du négatif de ce côté-là. Malgré un taux de chômage quand même intéressant, quand même 5,8, fait que, on ne parle pas d'une récession dramatique. Si on apprend qu'on est en récession là, pour le Canada, ça reste que ce n'est pas la fin du monde. On ne parle pas de taux de chômage pour l'instant de 10%, des choses comme ça. Taux d'inflation quand même sous contrôle. Puis une banque centrale également qui a des taux d'intérêt assez élevés présentement. Donc, on a des outils pour aider à stimuler l'économie en cas de besoin. Donc, c'est avec le pire scénario qu'on pourrait avoir, c'est être à l'aube de la récession en même temps qu'on n'a pas réussi à contenir l'inflation. Donc, le fait que l'inflation ne soit pas pire sous contrôle, puis qu'on débuterait peut-être une récession qu'on serait présentement dedans, tu sais, c'est pas mal comme qu'on pensait que ça finirait, cette affaire-là d'inflation. On ne savait pas quand ça finirait. On ne peut pas garantir que ça va être fini. Mais on comprend que la probabilité que ce soit fini commence à être assez élevée. Puis la probabilité que ça finisse en récession est assez élevée aussi pour le Canada. Le schéma est différent aux États-Unis quand même. Fait que c'est ce qui me fait penser que la récession canadienne ne serait pas si profonde que ça, évidemment, parce que notre économie est très liée à la leur. Mais le portrait aux États-Unis est un peu différent quand même, dans le sens que le taux de croissance au 30 septembre est à 4,9%. Annualisé, ça donne un genre de 2,9. Le taux de chômage à 3,7, vraiment bien de ce côté-là. Taux d'inflation aussi qui s'est normalisé autour de 3,1%, ce qui n'est pas mauvais. Mais l'économie à carbure aux States, ils ne sont pas en train de ralentir pantoute. Ça va peut-être venir, peut-être que ça va être l'histoire de 2024. Mais si on regarde ce qui s'est passé en 2023, cette économie-là est en super santé. Donc, c'est ce qui nous éviterait probablement une récession profonde au Canada, c'est le fait que les États-Unis sont vraiment en bonne santé. Puis, une dernière chose que je voulais finir avec, un texte d'opinion qui est passé dans la presse. Je trouvais vraiment cool. Fait que je vous le partage à l'écran, je l'ai mis dans un PDF. Celui-là, c'est « Rions un peu des prédictions économiques de 2023 ». Vous savez, en finance, je le dis souvent, je ne veux pas faire de prédictions parce que c'est de la merde faire des prédictions. Tu es tout le temps dans le champ. En fait, j'en fais personnellement, que je garde pour moi pour me rendre compte assez rapidement que je suis vraiment pas bon. C'est une erreur de faire des prédictions financières. Le texte tend à le démontrer un peu. On sort des quotes. C'est un exercice qui devrait être vraiment fait plus souvent parce que les gens comprendraient mieux la finance à cette façon-là. Parce que la grosse demande de textes financiers, c'est d'essayer de nous demander de prédire l'avenir. Donc, il y a une demande pour ça, fait qu'on leur fournit à la demande. RBC s'attend à ce que le Canada entre en récession au début 2023. Bon, pas arrivé. C'est parce que RBC sont mauvais, ils sont dans le champ. Non, tout le monde qui fait des prédictions sont mauvais et sont dans le champ. Je vous l'ai dit, j'en fais des prédictions, c'est juste que je les publie pas parce que je sais que je suis pas bon. J'ai un historique dans le passé de toutes les prédictions que j'ai faites, puis j'ai jamais été bon. Puis je ne serai jamais bon. Vous ne devez pas engager quelqu'un qui vous donne des conseils financiers en fonction de son historique de prédictions passées. On n'est tous pas bons. C'est pas à ça qu'on sert. Notre rôle est vraiment différent. Notre rôle est en termes de support au niveau de la psychologie, puis vous aider surtout à garder votre plan. Peu importe les nouvelles financières, jojo ou qui sont plus pessimistes de votre côté, vous font penser, mais notre but, c'est de vous garder dans la bonne direction. Pour le S&P 500 américain, Desjardins mise sur un léger rebond de 1,4% alors que BOMO prévoit que l'indice se contentera de faire du surplace. Comment ça a fait déjà l'année passée? Ah ouais, 25. It's all bullshit. Puis c'est pas des attaques envers BMO ou Desjardins. Là. Les prédictions financières, personne n'est bon là-dedans. Il faut baisser nos attentes envers les technos. Comment il a fait la Nasdaq déjà l'année passée? Ah oui, 55% de rendement. Vous voyez le genre un peu. Même ça ici, j'ai trouvé ce tableau-là était magique. Là. Le S&P 500 au 15 décembre 2023, 4715 points. Au début de l'année, il était à 3800. Sauf que toutes les banques que vous voyez là ont fait leur prédiction à combien il va être. Il y en avait trois qui prédisaient qu'il allait être plus bas. Barclays, Société Générale, Capital Economics. Les autres prédisaient grosso modo presque du surplace. La plus optimiste des banques, c'était Wells Fargo à 4300 et BMO à 4300. Et ça a fini à 4715. Donc, il n'y en a pas une qui était proche du résultat. Et ils étaient tous beaucoup trop pessimistes par rapport à ce qui s'est réellement passé. Donc, les prédictions, j'ai aimé cet article-là parce que de tous les articles économiques plus financiers que j'ai lus dans l'année, c'est un des articles que j'ai trouvé le plus utile pour les gens, pour avoir un apprentissage qui est quand même important au niveau de la finance. Fait que c'est ce que je vous ai préparé comme présentation. OK, 44 minutes avec ça. Bon, je pense que j'aime ça parler de finance. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller avec la période des questions. Fait que là, je vais lire vos commentaires. J'ai pas lu aucun de vos commentaires depuis le début. Fait que je vais essayer de lire à partir d'ici puis essayer de répondre à des questions de votre bord. C'est pas évident. Je suis vraiment tout seul. Première question qui rit. OK, il y a du spam en plus au travail. Ça me facilite la vie vraiment. Dude, c'est un bilan financier de l'année. OK. Ouais, c'est pas magique, mon affaire. OK, ça, j'aime ce commentaire-là. 6,35 trillions, c'est dur d'avoir une récession avec tout ça. Puis ça va répondre aussi à une question que j'ai eue sur Patreon avant. Des fois, on a cette petite tendance-là de confondre des choses. De confondre, dans le fond, une crise économique, une crise financière, une crise monétaire. Crise monétaire, je pense, c'est ce qu'on a vécu 2021-2022, dans le sens qu'on avait beaucoup d'inflation. On est obligé de monter les taux d'intérêt. Fait que ça, il se passait des trucs au niveau monétaire. C'est ce qu'on va vivre au Venezuela à l'époque. C'est ce que l'Argentine vit depuis un bout de temps qui a amené Milei à être au pouvoir. C'est de l'inflation. Donc, des crises monétaires, dans ma tête, c'est ce qui tourne beaucoup autour de l'inflation, puis des hausses et baisses dramatiques des taux d'intérêt qui sont obligés de réagir en fonction de ces chiffres d'inflation-là. Une crise financière, ça, c'est vraiment plus en bourse. Donc, c'est la baisse dramatique des indices boursiers. Donc, les gens se débarrassent de leur stock, une vente de feu, si on veut. Donc, des 2008, des 2001, des 87, des affaires comme ça. Ça, c'est des crises financières. Crise économique, ça, c'est lié à l'économie, donc le PIB. Ça n'a pas de lien avec la finance, ça n'a pas nécessairement de lien avec la crise monétaire non plus. Évidemment, on peut avoir les trois en même temps. Vous comprenez un peu l'idée. Mais souvent, pourquoi on fait ce mélange-là des genres un peu entre la crise financière et la crise économique? C'est que souvent, la crise financière va précéder la crise économique. Donc, on va voir les bourses chuter avant une récession, plus souvent qu'autrement. Ben, vous voyez, là, si le Canada est en récession présentement, mais la bourse n'avait pas chuté dans l'année. Fait que c'est pas tout le temps vrai, mais en même temps, c'est pas une récession qui s'annonce très, très, très profonde non plus. Mais il faut faire la différence entre les trois, là. Première des choses. Fait que quand on parle du 6,35 trillions, je pense pas que ça peut aider à prévenir une récession. Ça peut avoir un certain impact. Parce que c'est du cash-cash qui est disponible à tout le monde. Mais évidemment, ce que ça peut aider à prévenir, c'est une crise financière. Dans le sens que si les prix de la bourse auraient chuté dramatiquement, comme il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent en cash disponible pour un investissement, parce que déjà sur les marchés d'une certaine façon, tu es en marché monétaire, ça pourrait être redéployé assez vite pour acheter des titres qui baisseraient. Donc, dans un contexte où est-ce qu'il y a autant d'argent en cash disponible, c'est difficile de penser que les bourses pourraient chuter de 50% puis que ça serait un drame puis que ça serait... À quelque part, il y a quelqu'un qui va vouloir racheter pendant que ça baisse. Fait que c'est plus ça que je pense que ça prévient, cet argent cash-là. Puis ce que ça nous dit aussi, c'est qu'il en reste du cash dans le système, il en reste, c'est définitif. Quelle est la différence entre une crise économique et une crise monétaire? Là, je venais d'en parler un peu. Je vais essayer de prendre d'autres questions des gens. Puis si vous voulez en mettre, là, allez-y. Sinon, je vais arrêter le podcast. C'est pas plus compliqué que ça. ça, c'est bon. Ça doit coûter cher de Magenta imprimer tout ça. On parle des billets de banque, ça, probablement. Je comprends que c'est électronique aujourd'hui, mais j'aime la joke. Ça, c'est bon. Excusez-moi si je bug, là. Comme je vous dis, je suis un peu tout seul. Ça fait bizarre d'écouter un podcast économique en français. Alors, je pense qu'il y en a un peu. Il y en a un peu. Mais c'est vrai. Ah, Cédric, c'est un de nos conseillers qui est passé chez nous pendant plusieurs années. Salut, Céd, ça va, man? Libéraliser le marché de la construction et stimuler l'investissement privé au lieu de tout ramener à l'État aiderait notre propre à se développer. Tout à fait. Ça, c'est clair. Pour une fois que je pogne de quoi de live, salut, André! Ouais, OK. Prends rétablissement. Je comprends que tu es malade, c'est pour ça que tu nous pognes live. ça ici, une chance qu'elle va bien l'économie américaine parce que aussi ici, on sera en faillite. Non, pas en faillite quand même, là. Mais c'est sûr que l'économie canadienne, c'est un peu comme je disais. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que nous, les hausses de taux nous ont rentrés en plein d'un chiclette, là. Ne serait-ce que juste la proportion de taux variables qu'on avait dans nos hypothèques et ensuite les taux... hypothécaires qui sont à renouveler. D'ailleurs, j'avais sorti un graphique, j'ai oublié de le passer. J'ai été prendre les taux hypothécaires actuels présentement sur un site de courtage immobilier. Là, j'ai pris ceux-là des architectes hypothécaires, mais vous comprenez que tu vas sur Multiprêt ou Nesto ou toutes ces gangs-là, c'est sensiblement les mêmes prêts. Puis ça ne veut pas dire que tu aurais nécessairement ce taux-là, mais ça donne une idée. Si vous aviez à renouveler une hypothèque aujourd'hui, OK, voici vos possibilités. Variable est à 6,25. Le 1 an, t'as 6,79. Tu sais, je vois pas pourquoi l'intérêt, on prendrait du 1 an au lieu du variable. Le 2 ans, t'as 6,29. 3 ans, 5,64. 4 ans, 5,49. Et le 5 ans, t'as 5,14. Fait que c'est sûr que là, tu sais, il y a vraiment... ça commence à être difficile à prendre comme décision. Définitivement... Si vous aviez à être exposé à cette décision-là aujourd'hui, dites-vous, les chances que vous trompez sont toujours grandes. Là. Mais on est dans un contexte un peu plus classique. Donc, généralement, un contexte classique, c'est quoi? C'est que 85% du temps, tu gagnes avec du variable. Okay? On est revenu dans ce temps-là. Si ça apparaissait quasiment comme un no-brainer de fermer des hypothèques en 2021 puis 2022, ou début 2022, évidemment. Là, on est dans un mode où est-ce qu'on est dans un contexte beaucoup plus normal de taux d'intérêt. Donc, si on prend le variable, les chances qu'on gagne notre pari sont beaucoup plus grandes que les chances qu'on le perde. Évidemment, il faut avoir la capacité d'absorber des hausses de taux pour être dans le variable. Donc, si vous êtes hyper tight avec votre hypothèque et vous ne pouvez pas vous permettre des hausses de prix, des hausses de taux qui font en sorte que ça augmenterait votre budget au niveau de l'hypothèque, ben il faut aller vers du fermé à ce moment-là, essayer de sécuriser les trucs. Probablement que celui qui est le plus intéressant, c'est le 3 ans. Même si 5 ans est moins cher, je ne sais pas si j'aurais fermé 5 ans à 5,14. Je trouve que c'est un risque qui est important au Canada, surtout que l'économie commence déjà à vaciller. Fait que la raison d'aller vers du 3 ans, je trouvais ça quand même intéressant le 3 ans quand on était en mars ou en avril 2023, peut-être même un peu cet été. Mais de moins en moins, pour l'instant, je pense que le variable redevient de plus en plus sexy là, pour des décisions, pour ceux qui ont à en prendre. Évidemment, si vous n'avez pas à prendre de décision de votre côté, c'est que vous êtes à côté sur un taux d'intérêt qui est plus intéressant que ce que vous voyez à l'écran présentement. Fait que ça, c'est une petite affaire que j'avais prévu parler, que j'avais oublié, que vous venez de me faire rappeler. Je vais essayer de... Ça, c'est bon. GDP négatif, ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon. OK, j'ai ça ici. Comment vois-tu l'utilité d'avoir des obligations dans son portefeuille? Bien, présent, le portefeuille le plus classique qu'on a en finance, c'est ce qu'on appelle le 60-40. Donc, un 60 actions, 40% obligations. Quand je dis le plus classique, c'est que ça a toujours été dans des livres de théorie financière, là, une bonne façon de bien diversifier ses portefeuilles. Ce portefeuille-là a eu de la misère dans les dernières années, beaucoup plus qu'un portefeuille d'actions pures, principalement parce que les obligations, qui est le volet sécuritaire du portefeuille, a été vraiment malmenées dans les hausses de taux d'intérêt. La bonne nouvelle, c'est que si ces hausses-là sont réellement finies, ou du moins les taux d'intérêt seraient stables dans le temps, ou baisseraient, ben ce portefeuille-là va recommencer à jouer le rôle qu'il est censé jouer. Ça veut dire d'être moins risqué qu'un portefeuille d'actions, d'avoir des fluctuations moins grandes, et d'avoir une corrélation négative, ou du moins qui sont un manque de corrélation entre les actions et les obligations. Je fais un scénario classique. Une récession qui a été prévue par le marché des actions, donc qui a amené une baisse au niveau des actions en portefeuille, va généralement amener les gouvernements à baisser les taux d'intérêt pour stimuler l'économie. Dans le cas d'une baisse de taux d'intérêt, les obligations vont avoir un rendement positif. Même est un rendement positif assez important. Donc, dans le contexte où est-ce que tu as une récession qui arrive, que tu as un portefeuille 60-40, ton portefeuille d'actions va baisser pendant que ton portefeuille d'obligations va monter de son côté. Fait que, il est où l'intérêt d'avoir des obligations dans un portefeuille? Ça, c'en est un. Okay? Ça, c'en est un, définitivement. Donc, ça l'aide à contrebalancer les risques. Des années comme 2022, c'est quand même rare où est-ce que le portefeuille d'actions baisse et le portefeuille d'obligations baisse d'autant, sinon même un peu plus que les actions. Ça n'arrive pas souvent, ces situations-là, mais c'est arrivé en 2022. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est impossible. Mais plus souvent qu'autrement, quand les actions mangent une volée, les obligations ont tendance, du moins, à rester relativement stables ou même à faire du rendement plus positif pour compenser en partie. Donc, le but du portefeuille 60-40, c'est de réduire les amplitudes. Donc, les années que tu fais 30% de rendement en bourse, ben, tu fais peut-être plus 15 avec un portefeuille 60-40. Mais l'année que tu en perds 40 en bourse, ben, ça se peut que tu perdes juste 15 ou 20 aussi avec ton portefeuille 60-40. Donc, l'intérêt est là pour bien des gens de diminuer l'amplitude du mouvement. Donc, ça l'aide à persévérer dans un plan financier parce que justement, si on le sait qu'on n'a pas le cœur à supporter des hausses ou des baisses, surtout des baisses en fait de 30, de 35, de 40%, c'est difficile d'avoir un portefeuille juste en action à ce moment-là parce qu'on n'est pas capable de voir venir les crises puis sortir juste avant que la merde appogne. Ça, il n'y a personne qui est capable de faire ça. Donc, quand on a une stratégie 100% en action, qui est une bonne stratégie, c'est une stratégie que j'aime personnellement. Moi, c'est quelque chose que j'ai pour mes portefeuilles personnels. Je n'utilise pas d'obligation de mon côté. Mais je sais que quand ça va baisser de 40%, là, vous voyez que j'ai pas mis de conditionnel ici, ça va arriver un jour. Je sais que quand ça va arriver, ça me dérangera pas. Je sais que je vais rester investi. Je penserai même pas à vendre mes obligations. Ça me passera même pas par la tête. Donc, si on a l'impression que ça pourrait être plus tough pour nous personnellement de subir une perte de 40 ou 45% de vos actifs, tu sais, faites-le le calcul. Là. Vous avez, je sais pas, moi, 100 000 de REER. C'est une perte de 40 000 piastres qu'on parle. Si vous avez 500 000 de REER, on parle d'une perte de 200 000. C'est du cash, là, pour vrai. Là. Fait que si vous n'avez pas le cœur à subir ces baisses-là, ben, le portefeuille 60-40 est vraiment plus intéressant. Ce portefeuille-là, même s'il a été malmené dans les dernières années, va avoir un comportement beaucoup plus naturel, beaucoup plus « textbook », si on veut, entre guillemets, dans les prochaines années. Donc, ce serait la raison d'avoir des portefeuilles des obligations dans un portefeuille. Donc, ça dépend beaucoup de la tolérance au risque des gens, là, vous l'aurez compris. Puis des objectifs aussi, parce que quand que je parle d'un portefeuille, je parle tout le temps d'un portefeuille de retraite qui est pour dans plusieurs années. C'est sûr que si vous avez des obligations, par exemple, si tu as un cash down de maison, t'es pas en train d'avoir des investissements en actions parce que tu vas sortir l'argent dans un an. Là. Tu comprends cette idée-là. Si tu es déjà à la retraite, ben, y a une partie de ton portefeuille qui est en décaissement, donc tu peux pas être 100% en actions quand tu es déjà à la retraite. Il y a des compromis qui doivent être faits au niveau des obligations puis des titres un peu plus sécuritaires. Crash immobilier prochainement. Je pense que tu as un peu la réponse au niveau des prédictions. Je ne m'avance jamais trop. Je pense que les podcasts qu'on a fait avec Pierre Desrochers sont super pertinents par rapport à ça. Dites-vous une affaire, la résistance pour éviter des crashs immobiliers est très, 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 très grande. Ce n'est pas une garantie que ça pourrait arriver. En fait, pour que ça arrive au Canada, dans ma tête, il faudrait vraiment qu'il y ait beaucoup de dézonage, beaucoup de déréglementation, parce que c'est ça qui maintient les prix artificiellement élevés dans le contexte canadien. Fait que c'est un peu fou ce que je vais dire là, mais une personne qui pourrait créer un crash immobilier, c'est une personne très libre à marché, parce qu'il y a beaucoup d'artificiel présentement, mais vous comprenez que tout le monde qui possède déjà une maison ne veut pas voir la valeur de leurs actifs baisser. Les seuls qui seraient contents d'un crash immobilier, c'est les premiers acheteurs potentiels qui ne sont pas encore rentrés sur le marché. Vous comprenez un peu la game. Je n'ai pas de questions, mais j'adore entendre parler de finance aussi. Merci. Merci, Labju. Bien apprécié. Pourquoi est-ce qu'au Canada, il est impossible de locker des taux pendant 30 ans comme c'est le cas aux États-Unis? C'est une question que j'ai recherchée très, très rapidement. Je n'ai pas mis beaucoup de temps là-dessus. Mais de ce que je comprends, c'est principalement les sociétés qui sécurisent les hypothèques pour les banques. Donc, au Canada, vous êtes habitué à la SCHL. Aux États-Unis, c'est Freddie Mae, Freddie Mac, ou Fannie Mac, Freddie Mae. En tout cas, je les mélange tout le temps, ces deux-là, qui s'occupent de ça, par exemple. Donc, au Canada, tu peux avoir des taux 30 ans, apparemment, mais à condition, c'est de ne pas être SCHL. Donc, d'avoir au moins 20% de cash down sur ta maison. Donc, vous comprenez que c'est pas quelque chose qui a été très popularisé au fil du temps. Tandis qu'aux États-Unis, les Fannie Mae et Freddie Mac permettaient ça de leur côté. Donc, vous pouviez avoir une hypothèque assurée par ces deux institutions-là, même si vous aviez choisi un taux 30 ans. Puis, ça l'a aidé vraiment beaucoup à populariser de leur côté ce type de prêt hypothécaire-là. Ça, c'est bon. Que penses-tu de la monnaie numérique au Canada? La Banque du Canada a tâté le terrain consultant la population. Bon, c'est pas quelque chose que je vois des problèmes personnellement. Là. Tu sais, je veux dire, je pense qu'on soulève des fois les craintes au niveau le fait que le gouvernement saurait tout, ce qu'on fait avec notre argent, des choses comme ça. La réalité, c'est qu'en 2023, on a tellement une vie numérique et électronique diversifiée. Le gouvernement, s'ils veulent vraiment, ils savent déjà tout, là. On peut difficilement cacher de l'information. Des fois, il y a une fausse pensée, par exemple, ça vient un peu du monde des crypto-monnaies, mais qu'avec le Bitcoin, on est capable de cacher des informations, des choses comme ça. C'est tout le contraire. La réalité, c'est que si tu veux tracker des transactions dans les ledgers Bitcoin, c'est quand même assez facile à faire, là, étant donné qu'il y a un track record qui est immensément long. T'sais. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de discussions qui stresse les gens par rapport à ça parce qu'on a, on fait référence à Big Brother un peu en 1984 quand on a ces discussions-là. Mais je veux dire, c'est déjà comme ça. Si vous achetez des terrains, c'est notarié avec le système de cadastre, des choses comme ça. Si vous achetez des titres financiers, des fonds négociés en bourse, des trucs comme ça, ben, toutes des transactions électroniques déjà. L'économie au noir, si on veut, là, l'argent en cash, c'est rendu très, très, très difficile de vivre une vie entièrement avec de l'argent en cash. Par exemple, ce qui était possible à une époque, c'était d'acheter un véhicule automobile entièrement payé en cash. C'est quelque chose qui est pratiquement impossible à faire en 2023. Fait que notre monnaie actuelle est déjà passablement numérique dans ma tête. Là. De faire un switch complet, d'éliminer entièrement l'argent en cash, tout ça. C'est un pas qui qui va se faire enchir tout seul, j'ai l'impression. T'sais, ils n'ont pas besoin de pousser ça pour que ça arrive. Là. Fait que non, c'est pas quelque chose qui m'inquiète grandement. Là. Je veux dire, on vit dans une économie numérisée maintenant. Là. C'est la réalité. Ça facilite la vie au gouvernement pour tout savoir, mais en même temps, ça nous facilite la vie aussi dans la vie de tous les jours de notre côté. Ça, c'est bon. Des bonnes questions, là. Bonjour, je suis en train de créer ma propre compagnie et je me demande si c'est une bonne idée de financer en émettant des actions de catégorie G. Ben écoute, catégorie G, ça veut rien dire dans le sens que, tu sais, c'est toutes sortes de catégories qu'on peut avoir. Ça, c'est vraiment ton fiscaliste qui va t'aider beaucoup avec ce type de questions-là. C'est le professionnel à qui tu dois parler. Je ne suis pas fiscaliste, by the way. Là. Moi, c'est vraiment plus au niveau des investissements, des assurances-vie, des assurances-invalidité, maladies graves, des choses comme ça. Là. Donc, la personne à qui tu dois parler, c'est définitivement ton fiscaliste pour cette question-là. Quand je regarde les graphiques du S&P 500 et du Nasdaq présentement, on s'en va en M-top pattern. Trouves-tu cela inquiétant, étant donné que l'on est presque en all-time high? Deux choses dans cette question-là. Premièrement, M-top pattern, tout ça, on parle d'analyse technique. Moi, dans ma tête, l'analyse technique, c'est de la sorcellerie. Là. fait que ça n'a pas de capacité prédictive. Donc, c'est pas des méthodes que j'utilise. C'est pas quelque chose que je regarde. De toute façon, c'est un peu comme je dis beaucoup avec les clients. Je me vois plus comme un préparateur physique, un coach, un psychologue, si on veut. Notre but, c'est vraiment d'aider les gens à monter un plan financier et à respecter ce plan-là. C'est basé sur des principes. Les principes sont extrêmement simples. Là. C'est pas parce que les principes sont simples qu'ils sont respectés facilement. Ça, c'est la chose à garder en tête. Mais grosso modo, là, si tu respectes ces trois principes financiers-là, tu vas faire de l'argent en bourse. Ça va être facile de faire de l'argent en bourse à long terme. Sois toujours investi dans des produits qui sont diversifiés et essaie pas de prédire l'avenir. Fait que déjà là, quand on utilise des patterns d'analyse technique pour essayer de prédire ce qui va arriver dans le S&P 500 ou le Nasdaq, ça contrevient déjà à un de mes principes d'investissement. Tu comprends un peu l'idée, là? Donc, c'est pas que je regarde ça de haut, là, puis c'est vraiment... Il y a toutes sortes de philosophies de ce côté-là. Mais moi, ce que je vais faire vraiment, là, c'est de respecter l'ensemble de ces principes-là 100% du temps. Aider les gens à respecter ces principes-là. Donc, tu comprends que l'analyse technique est en contradiction directe avec un de mes principes d'investissement. L'autre bout de ta question, le problème, est-ce que c'est un problème qu'on soit en all-time high? La réponse est non. Parce que naturellement, les bourses produisent des all-time high. La meilleure façon que tu as de t'en convaincre, là, c'est sors l'historique du Dow Jones depuis 1896. Tu vas voir que l'indice qui est à 37 000 aujourd'hui, il a déjà été à 50. Là. La réalité, c'est qu'en moyenne, S&P 500, depuis que l'indice est créé, donne du 10,5% quand on intègre les dividendes dans le calcul. Fait que c'est normal qu'il y ait des all-time high, les indices sont configurés pour donner ça. Pour que ce soit un problème, il faudrait que la moyenne de rendement historique soit de 0%. Puis que là, on serait dans un all-time high. Fait que si on serait sur quelque chose d'horizontal, par exemple, quelque chose qui est horizontal, c'est les variations de taux de change entre le Canada et les États-Unis. On se rend compte qu'on navigue dans un range assez limité, ça va de 60 sous à une pièce et 10, par exemple. On est toujours dans ce range-là. Ben, c'est sûr que quand tu arrives à 60 sous, tu sais, tu commences à penser que les chances, ça retourne par en haut, même si c'est pas garanti, sont plus grandes que ça continue à baisser. Puis c'est aussi vrai quand on est à une pièce à 5, une pièce à 10. Tu commences à penser, ouais, ça se peut-tu que ça se mette à baisser plus qu'à monter, tu sais. C'est les all-time high dans un contexte où est-ce que tu es vraiment à l'horizontale, comme ça peut avoir un impact. Dans le contexte où est-ce que tu es à côté sur une ligne qui monte à toute fin pratique à 45 degrés, même des fois qu'on est obligé de mettre dans une échelle logarithmique pour la regarder, c'est pas un problème hein, à all-time high, pas du tout en fait. Peux-tu m'expliquer la différence entre RPDB et REER? Est-ce que c'est vrai que si je retire une part du RPDB, je peux avoir une pénalité de mon employeur qui cotise? Merci, bonne année. Le RPDB, c'est spécifiquement pour les cotisations d'un employeur dans un régime collectif. Les vraies différences sont au niveau de l'employeur. Okay, il y a un statut fiscal différent. Pour lui, c'est moins dispendieux de mettre de l'argent dans ton RPDB que de mettre de l'argent dans ton REER collectif. Okay, grosso modo, là, la raison de son existence, le RPDB, c'est d'abord et avant tout ça. La fiscalité est vraiment différente de son côté. Puis, de ton bord, souvent, c'est que tu n'auras pas nécessairement le droit de sortir les cotisations. Des fois, tu as le droit, là, c'est quand même assez rare. Ce qu'on voit, ce qui est le plus classique, là, c'est que tu n'as pas le droit de les sortir, tu n'as pas le droit de les transférer dans une autre institution. Ça, c'est ce qu'on voit le plus souvent. C'est un peu ça la réalité. Si tu as le droit de sortir ça, est-ce qu'il y a des pénalités? La seule personne qui peut vraiment te répondre, c'est ton service de ressources humaines ou le gestionnaire du régime collectif là, qui pourrait peut-être répondre à ta question. Mais c'est un peu ça la game. Est-ce qu'il y a des grosses différences? Je pense qu'il y en a une aussi au niveau du RAP. Là. Tu ne pourras pas rapper le RPDB, par exemple, tout ça. À toute fin de pratique, quand tu prends ta retraite, le RPDB va se transformer en REER individuel de ton côté. Là. J'oversimplifie beaucoup. Là. Il y a plus de différences, évidemment, vous le comprenez. Il s'agit juste de regarder les descriptions des régimes sur l'Agence de revenus du Canada. Mais si on regarde vraiment les éléments qui peuvent intéresser un individu le plus, là, à toute fin pratique, ça se ressemble énormément. C'est ça. C'est pour les cotisations employeurs. Ça, c'est bon. Ça, j'ai un petit commentaire, le fun ici. Merci pour le podcast financier québécois. C'est rare, tellement passionnant. Tu devrais en faire plus souvent. Peut-être, mais j'aime le beat une fois par année, honnêtement, parce que le défaut, je trouve, en finance, c'est quand tu essaies d'en parler trop souvent, tu tombes dans le monde des prédictions. La façon que j'ai de parler de la finance est extrêmement plate dans ma tête. Quand c'est pas trop souvent, c'est correct, là. Mais si j'avais à vous parler de finance à toutes les deux semaines, vous trouveriez que mon disque saute pas pire. C'est un peu ça la game. Fait que c'est un peu ça là, l'idée à garder en tête. Julie Hamel. OK. Ah, je pense que c'est en lien avec tantôt la question. OK, c'est bon. L'argent numérique. Ça, c'est bon. Bon, ben, écoutez, vite, je pense que ça fait le tour. Fait que 1h08, je suis satisfait. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une super belle journée, puis merci. Ça finirait, c'est pas grave.